Messie reviendra, mais il y aura la paix. Alors il demande à Jésus, mais quand est-ce? Par exemple, chez le prophète Ésaïe, au chapitre 11, versets 4 et 5, il est dit, « Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheurs de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. » Fort comme parole. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Alors, en accord avec Ésaïe, les Juifs attendaient le temps où le Messie roi viendrait pour changer le monde, arracher le mal et le remplacer par la justice. Nous pouvons comprendre leur attente. Quand moi-même j'avais 16 ans, je discutais avec un pasteur et je lui ai dit, tu ne sais pas combien j'aimerais que Dieu arrive aujourd'hui. Il m'a dit, qu'est-ce que tu me racontes là? Toi, un jeune garçon de 16 ans, tu parles comme ça? Laisse ça pour moi, j'ai 60 ans. Mais j'en avais marre de ce que j'entendais autour de moi. Et donc, je comprends l'aspiration des disciples à vouloir la justice au lieu du mal autour de moi. Je comprends la question des disciples. Quand est-ce que tu enlèveras le mal dans ton royaume? Et voilà qu'arrivent les disciples qui croient que Jésus est le Messie, parce que c'est ce qu'il annonce. Il est annoncé de longue date par les prophètes Ésaïe, Ézéchiel. Il est ce roi qui viendrait instaurer la justice. Cependant, il ne voit pas cette purge-là se matérialiser. Jésus est là, ça fait un moment. Hein. Pourtant, des gens continuent à s'entretuer, des gens continuent à voler, des meurtres continuent à se faire et la question demeure, pourquoi et quand? Quand est-ce que tu vas te défaire de tout ça? Quand est-ce que ce que les enfants de Dieu pourront vivre sans le mal? C'est ce qui est promis, hein? Ils ont raison de poser la question. Comme nous, nous avons raison de nous poser la question. Bien souvent. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Et donc, moi aussi, j'aspire aux mêmes choses que ces disciples-là. Et je comprends très bien leurs attentes, leurs questions. Moi aussi, je voudrais que la justice fasse partie de nos vies, aujourd'hui. Nous vivons dans une période un peu folle, n'est-ce pas? Un peu folle, et je dis ça, c'est un doux euphémisme. Un peu folle où dans notre société, le mal est appelé bien, et le bien est appelé mal. Les filles se font garçons et les garçons se font filles. Et on ne sait pas où donner la tête. Et là-dessus, ma fille me pose tellement de questions. Et je dois lui trouver des réponses. Et nous avons l'impression que les choses vont de mal en pis. Et les récents événements confirment ce que nous pensons, nos craintes. Pour un rien, le pays s'embrase. Et on se demande, où est-ce qu'on va? Et Seigneur, jusqu'à quand toutes ces choses-là vont arriver? Quand est-ce que le mal sera arraché de ce monde? Si tu es roi, Messie, celui dont parle l'Ancien Testament, quand est-ce arrive ta justice? Et nous pouvons être tellement désespérés, découragés parfois, à la vue de tout ce qui arrive. En tout cas, moi, en ce moment, ça fait l'objet de mes prières pour mon pays. Seigneur, apaise mon pays. Nous nous sentons donc solidaires avec ses disciples, avec leurs questions. Seigneur, quand? Quand est-ce que le mal sera enlevé de ce monde? La première chose que nous verrons dans notre passage, C'est l'histoire qui la caractérise. Une parabole, vous le savez, c'est une histoire terrestre avec une résonance spirituelle. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus utilise des paraboles. Et donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Matthieu chapitre 13, si vous ne l'avez pas encore fait, et puis nous lisons. Matthieu 13, à partir du verset 24, verset 30. Matthieu 13, 24 à 30. Vous y êtes ? Je lis. Il leur proposa une autre parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait ça. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. C'est l'histoire. L'histoire que raconte Jésus, cette parabole qu'il raconte à la foule qui l'écoute. Les disciples qui l'écoutent. Et si vous n'avez pas tout compris de l'histoire, c'est pas grave. Les disciples étaient dans la même situation. Et moi, au début, j'étais dans la même situation. Comprenons pas cette histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Jésus partage cette parabole avec ses disciples, eux aussi avaient l'air perdus. Et c'est pour ça qu'après, ils sont allés dans la maison lui demander « Seigneur, dis-nous ce que ça veut dire. Explique-nous la parabole de l'ivraie. » Et c'est pour cela que la deuxième chose que nous verrons dans notre texte, après l'histoire, ce sont les symboles. Parce qu'il a donné des symboles. Après que Jésus a partagé la parabole, ses disciples sont venus le voir, comme je disais, dans la maison pour lui demander de leur expliquer la parabole. Verset 36, et Jésus se propose de la leur expliquer. J'attire votre attention sur le fait que la parabole, les disciples l'appellent la parabole de l'ivraie. J'ai feuilleté quelques versions de la Bible avant, en préparation de ce message, et certains le nomment comme Louis II, par exemple, l'ivraie et le bon grain. D'autres, l'ivraie et le blé. Mais au verset 36, on voit que les disciples l'appellent la parabole de l'ivraie. Explique-nous la parabole de l'ivraie. Et ils font bien parce que le mot ivraie est écrit 8 fois dans l'histoire, alors que le mot blé, il est écrit que 4 fois. Donc, raconte-nous, explique-nous la parabole de l'ivraie. 7 symboles sont donnés par Jésus pour expliquer la parabole de l'ivraie. Et Jésus commence son explication en disant, au verset 37, « Celui qui sème la semence, c'est le Fils de l'homme. » Celui qui sème la semence, c'est le Fils de l'homme. Dans la parabole, celui qui ensemençait le champ, c'était le fermier, le propriétaire du champ. Et là, Jésus explique que le fermier symbolise le Fils de l'homme. Et vous devez le savoir, lorsque Jésus utilise cette expression « Fils de l'homme », les Juifs comprennent tout de suite la référence. Il est question du livre de Daniel au chapitre 7 où Daniel fait un rêve et il voit que le royaume de Dieu est attribué à quelqu'un. Quelqu'un avec la ressemblance d'un fils d'homme. Et Jésus s'identifie à cette personne en disant qu'il est, lui, ce fils d'homme. À un fils d'homme, le royaume est donné. Il s'avança vers l'Ancien des Jours, un autre nom pour Dieu, hein, l'Ancien des Jours, et on le fit approcher de lui, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et toutes les nations et les hommes de toute langue le servirent. Je suis dans Daniel chapitre 7. Sa domination est une domination éternelle et ne passera pas. Et son règne ne sera jamais détruit. C'est ce qu'il est dit au sujet de ce fils d'homme. Donc Dieu ici, le Père, donne la domination, la gloire, la royauté éternelle au fils de l'homme. Et ce que Jésus fait ici, c'est qu'il s'approprie ce titre de fils d'homme. Alors, le fermier de notre histoire représente Jésus. C'est lui à qui la domination a été donnée, la gloire a été donnée, le règne pour toujours. Autre symbole, le champ. À quoi fait référence le champ? Jésus continue son explication pour dire que le champ, c'est le monde. Le champ représente le monde dans lequel nous vivons et pas l'Église. Ce que j'ai entendu souvent. Le champ, c'est le monde. Du coup, ça devient un peu frappant. Parce qu'il dit que c'est son royaume, ce monde-là. Vous l'avez lu comme moi. Son champ, c'est le monde. Le champ appartient au fermier. Et dans ce champ, il a semé une bonne semence. C'est aussi dans ce même champ que son ennemi a semé une mauvaise graine. Jésus nous explique que le champ représente le monde dans lequel nous vivons, qui appartient au fermier. Le champ dans lequel aussi son ennemi est venu semer la mauvaise graine. Et du coup, nous pouvons nous rappeler de ce que dit le psaume 24 au verset 1, lorsqu'il dit que la terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. Vous vous rappelez de ce psaume-là? L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. Pourquoi le monde appartient à Dieu ou à Jésus? Pareil, parce que c'est lui qui l'a créé. Il était là dès le début et il a dit « faisons » ou « créons ». Il était là avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. C'est lui qui l'a créé. Et Jean, dans son évangile, de préciser en parlant de Jésus, Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Jésus a participé à cette création. Et donc le monde est son bien en propre. Le monde, c'est le royaume de Dieu. Et c'est lui qui le dit. Adam et Ève avaient été nommés co-gérants de ce monde. Malheureusement, ils ont failli à leur tâche. Et qui est-ce qui a pris la main? Le diable. C'est lui qui gère maintenant. Et c'est pour ça qu'on a du mal à reconnaître la souveraineté de Dieu dans ce monde qui lui appartient, parce que le diable a pris le contrôle. Et c'est pour que Jésus, à trois occasions différentes dans l'évangile de selon Jean, Jésus dit de Satan qu'il est le maître de ce monde. Mais comprenons bien que Satan n'est que maître illégitime, parce que le monde appartient à Dieu. Le Fils de l'homme est le maître légitime. Dans la parabole, le champ appartient au fermier. Et Jésus est propriétaire du champ. Cependant, Satan domine temporairement. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord que tout ce qui arrive en ce moment, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus. Et c'est bien à l'initiative du malin. Parce qu'il domine temporairement. Un jour, le Fils de l'homme régnera sur le monde pour l'éternité. C'est ce qui est dit. Mais ça, c'est pour dans l'avenir. Maintenant, que représente le bon grain? Jésus dit que le bon grain représente les fils du royaume. Le bon grain représente les enfants de Dieu, les croyants qui ont été appelés dans la parabole par l'expression « les fils du royaume ». Rappelez-vous que Jésus est le fermier. Il sème le bon grain qui représente les chrétiens dans son champ, qui représente le monde. L'idée ici, c'est que Jésus a éparpillé ses disciples partout dans le monde, partout dans son champ. Et le point de vue des Écritures, c'est que partout où nous sommes, partout où il y a des chrétiens plantés, dans nos foyers, dans nos mariages, dans nos professions, dans notre vie de tous les jours, partout où nous sommes plantés, nous avons le devoir de porter des fruits. C'est ce qu'il dit. Il a planté les fils de Dieu partout dans le monde pour porter du fruit. La semaine dernière, nous voyons de quel type de terre nous étions. Et il y avait la bonne terre sur laquelle le grain tombait et devait germer. Et là, il nous dit qu'effectivement, le grain est tombé dans la bonne terre et germe. Mais à côté de lui, germe aussi autre chose. C'est afin que nous puissions produire du fruit, des fruits de justice, et partager notre témoignage de ce que Jésus fait pour nous, qui nous a semés dans le monde. Et il faut que nous en soyons conscients. Le champ, c'est le monde. Le bon grain représente les chrétiens que Jésus a placés stratégiquement partout dans le monde. Malheureusement, l'ennemi vient aussi placer stratégiquement ceux qui le suivent dans le monde. Le mauvais herbe, qui est le résultat de la semence de l'ennemi, représente ceux qui suivent le diable. C'est ce que dit Jésus dans la suite. Ce sont littéralement les fils du malin, nous dit le texte, les enfants du diable. Je vous mets au défi d'aller appeler quelqu'un au dehors et de lui dire « tu es enfant du diable ». De la même façon que Jésus a disséminé ses disciples, Satan aussi a disséminé ceux qui le suivent partout dans le monde. Et ce n'est pas pour nous faire du bien. Ce n'est pas pour faire du bien au monde. Au contraire, c'est pour semer la zizanie. Et vous savez, l'ivraie, dans le grec, ça se dit zizanion, zizanie, confusion. C'est à ça que servent ceux qui suivent le diable, à semer la zizanie. Et c'est ce qu'ils font très bien, et nous en sommes témoins. Jésus est à l'œuvre à travers ses enfants, comme Satan est aussi à l'œuvre à travers ceux qui le suivent. De même que Dieu a un plan pour ses enfants pour orienter les personnes vers le salut, de même que Satan a un plan pour ceux qui le suivent pour orienter les gens vers la perdition. Et il faut que nous en soyons conscients. Satan est un ennemi de Dieu qui cherche à se venger de Dieu. Vous vous rappelez, la Bible dit de lui qu'il était un... Satan était un... de lumière. et il s'est enorgueilli. Il a voulu être Dieu à la place de Dieu, calife à la place du calife. Il a été expédié sur terre. La mauvaise herbe représente les enfants du malin, de même que le bon grain représente les enfants de Dieu. Et chacun d'eux, tous sont disséminés partout dans le monde pour œuvrer pour leur maître. Il ne faut pas l'oublier, ça. Au verset 39, Jésus fait savoir que l'ennemi en question, celui qui a planté la mauvaise herbe, c'est le diable. Dans la parabole, l'ennemi du fermier avait semé des graines qui ont donné l'ivraie dans le champ de blé. Ce qu'il faut savoir, c'est que au temps de Jésus, si quelqu'un dans le milieu agricole avait un problème avec vous, ou si vous étiez agriculteur aussi et que vous aviez un souci avec un autre agriculteur, pour se venger, vous savez ce qu'il faisait? Il passait dans votre champ et il semait de la mauvaise graine. De façon à ce que vous perdiez votre récolte. Et c'est exactement ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. C'est une situation de vie réelle que Jésus raconte à ses disciples. C'est ce qui se faisait tellement que les Romains, la loi, il y avait une loi chez les Romains qui punissait ceux qui agissaient de la sorte, ceux qui semaient du mauvais grain dans le champ des autres. Tellement que la chose était sérieuse. On s'en servait pour se venger. C'est vous dire quel type d'ennemi que nous avons en face de nous, ce diable. C'était une chose courante à l'époque des Jésus. Et c'est pour ça qu'il l'utilise comme illustration pour enseigner ses disciples. Satan était un ange de lumière, oui. Aujourd'hui, un ange déchu. Et il fait des ravages. Il fait tout ce qu'il peut pour que le moins possible puisse aller au ciel. À cause de sa rébellion, il a été expulsé, je l'ai dit tout à l'heure, il a été rejeté sur terre, mais Satan reste l'ennemi numéro un de Dieu et il cherche toujours à se venger. Et Jésus continue en indiquant que la moisson correspond à la fin des temps. Dans la parabole, le blé et l'ivraie ont grandi ensemble. Et au moment de la moisson, l'ivraie sera arrachée en premier, puis brûlée, nous dit le texte. Ensuite, le blé sera récolté et entreposé dans le grenier du fermier. Et maintenant, Jésus nous explique que la moisson, c'est la fin des temps. Et Jésus annonce que ce jour-là sera terrible. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Maintenant, les serviteurs. Dans la parabole, ce sont eux qui alertent le fermier sur le sabotage du champ. Jésus nous fait savoir que ces serviteurs de la parabole représentent les anges. C'est eux qui vont procéder à cette moisson, à cette récolte. Verset 41, il est dit qu'ils arracheront du royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. C'est seulement à ce moment-là que la prophétie des prophètes dans l'Ancien Testament se réalisera, au moment de la moisson. Pas maintenant, au moment de la moisson. Ce n'est pas pour tout de suite, dit Jésus. Ce temps viendra après, au moment de la moisson, et pour le moment, le blé et l'ivraie sont appelés à vivre côte à côte. Même si ça nous déplaît, il en est ainsi. J'ai lu quelque part que l'ivraie est tellement ressemblant, en tout cas le plant au début de sa croissance, l'ivraie est tellement ressemblant au blé qu'il faut vraiment un œil exercé pour pouvoir distinguer l'un de l'autre. Et c'est pour ça que Jésus dit, en tout cas le maître du champ, dit à ses serviteurs, n'arrachez pas l'ivraie tout de suite. Et j'ai encore lu que lorsque ça fait racine, en tout cas le blé et l'ivraie, leurs racines s'entremêlent de façon inextricable. De sorte que si on arrache l'ivraie, le blé vient aussi. Si on arrache le blé, l'ivraie vient aussi. On ne peut pas arracher l'un sans l'autre. Et c'est par souci de préservation que le maître du champ exhorte ses serviteurs à ne pas arracher l'ivraie ou préserver le blé. Et c'est tellement frappant quand j'ai lu ça et que j'ai compris que, et dire que si le mal est encore parmi nous, c'est pour nous préserver. C'est ce qu'il dit. S'il y a encore le mal dans le monde, c'est pour préserver les chrétiens. Et moi, je vous garantis que j'ai arrêté de chercher à comprendre la logique de Dieu parce que ça me dépasse. Ça me dépasse. On serait tellement bien, mieux, selon moi, s'il n'y avait pas le mal. Si tout était bien, si nous vivions tranquillement en paix, je m'en porterais bien. Je n'ai pas besoin d'un voisin qui râle tout le temps, qui se bat pour une place de parking devant chez moi. Non, je n'ai pas besoin de ça, moi. Je sais très bien s'il n'était pas là, ce voisin. Et Jésus dit qu'il est là pour te préserver. Je le laisse là pour ta sauvegarde. Et moi, je trouve ça frappant. Jésus fait savoir tout de même à ses disciples que toute cette situation n'est que pour un temps. Ça ne va pas durer. Alors patience. Prenez courage. Patience. Et qu'est-ce que tout cela veut dire pour nous aujourd'hui, du coup? Qu'est-ce que cette parabole a à nous enseigner aujourd'hui? Comme les disciples au temps de Jésus, nous vivons des temps troublés, je l'ai dit au début. Nous vivons des temps vraiment pas sympas. Alors peut-être que quelques-uns de nous se sentent à l'aise, mais j'aime bien dire, allez poser ça, la question aux gens de la Corée du Nord, ou du Yémen, ou de quelques pays africains. Nous nous sommes peinards aux Antilles, n'est-ce pas? En tout cas, moi j'étais bien aux Antilles. Ce n'est pas joyeux de se réveiller tous les matins pour entendre à la radio de nouveaux faits divers qui frappent le pays. Ce n'est pas plaisant d'entendre que les meurtres continuent à courir les rues. Ce n'est pas plaisant de vivre dans un monde où on apprend que quelqu'un qu'on aime a été tué. Ce n'est pas plaisant de voir nos proches mourir petit à petit. Plus on avance en âge et plus les gens autour de nous partent. Ce n'est pas plaisant d'aller visiter une famille à l'hôpital et de le voir dans le coma et de ne rien pouvoir faire. Ce n'est pas plaisant de se sentir en insécurité à cause d'un virus, une pandémie mondiale. Ce n'est pas plaisant d'allumer sa télé et de voir des pillages, une vraie insurrection. Tout ça parce que un policier a fait une erreur. Ce n'est pas plaisant. Ce n'est pas plaisant. C'est même terrible pour le croyant de vivre dans un monde rempli de péchés qui cause tellement de dommages, tellement de peines, tellement de souffrances. Les disciples de Jésus qui faisaient face aux mêmes choses se sont tournés vers Jésus pour lui dire, mais jusqu'à quand, Seigneur? Nous ne voulons plus vivre ces situations. J'ai plus envie de vivre ces situations. À ces moments-là, ce qui peut résonner dans nos mémoires, c'est la prière du Notre Père, où Jésus, en enseignant sa prière à ses disciples, disait « Que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse sur la terre, comme elle s'accomplit dans le ciel. » Je ne sais pas si vous la faites, cette prière, mais régulièrement, je dis au Seigneur « Que ton règne vienne. » Fais ta volonté sur cette terre, parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus. Quand est-ce que ça va changer? Quand est-ce que ton règne de justice se réalisera? Quand est-ce que tu vas enlever le mal dans ce monde et la remplacer par la justice? Parce que c'est ce que nous voulons. Alors, Jésus partage cette parabole avec ses disciples, pour les encourager. Même si quelque part ça fait peur, parce qu'il dit que le péché qui s'y trouve dans ce monde, ben je ne peux pas encore l'arracher, parce que si je l'arrache, tu vas en pâtir aussi. C'est pour ton bien que je laisse ça comme ça. Mais dans un futur plus ou moins proche, on ne sait pas, il sera autrement. Je vais procéder à la moisson et il n'en sera plus ainsi. Verset 43, il répond très concrètement à la question. Vous voulez savoir quand est-ce que je vais enlever le mal de mon royaume? Et n'oublions pas que c'est son royaume. Vous voulez savoir quand est-ce que je vais enlever tout le mal de mon royaume? À la fin des temps. Lorsque je donnerai à mes serviteurs les anges de procéder à la moisson, lorsque je dirai, il est temps de récolter le blé et de le séparer de l'ivraie, à ce moment-là, le mal disparaîtra. Alors les justes resplendiront, nous dit le verset 43, comme le soleil dans le royaume de leur Père. N'est-ce pas encourageant de savoir qu'un jour, tout ça n'existera plus. Tout le mal que nous voyons autour de nous, que nous expérimentons, tout ça n'existera plus. Plus de morts, plus de tués, plus de pleurs, tout ça n'aura plus lieu. Parce que Dieu aura enlevé le mal de son royaume. En tout cas, ça m'encourage. Même si je ne le vois pas de mon vivant, même si ça n'arrive pas du vivant de mes enfants, mais je sais qu'un jour, il n'y aura plus de mal dans le royaume de Dieu. Alors oui, ça m'encourage. Lorsque la route semble difficile, lorsque nos avancées semblent entravées, rappelons-nous que un jour, tout cela n'existera plus. Alors mes chers frères et sœurs, soyons réconfortés autant que faire se peut. Soyons réconfortés de ce qu'un jour Dieu séparera l'ivraie du blé. Il séparera les enfants du malin des enfants de Dieu. Et ce jour sera un jour glorieux. Que le Seigneur donc nous aide à attendre ce moment avec toute la patience que nous pouvons, mais avec une espérance ferme que ce qu'il dit, il le fera. Amen. Et je vous invite à courber la tête quelques instants.